Hélène Roussel pour le journal, bonjour.
Bonjour. Bouclier et cocktail Molotov contre grenades lacrymogènes et canons à eau. Hong Kong, les pro-démocratie contre le pouvoir pro-chinois. La manifestation interdite plonge dans la violence à l'heure où la nuit tombe. No à Bojo, les Britanniques prennent la rue contre la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement avant son Brexit dur. Des dizaines de manifestations un peu partout dans le pays. Nous serons en direct de Londres dans ce journal. Cherche cap et capitaine pour diriger le navire. La droite en miettes, le parti Les Républicains en université d'été à la Baule. Un seul ténor sur place, Gérard Larcher. Que reste-t-il des LR? Réponse avec notre envoyée spéciale, Cécilia Arbona. Dans l'actualité encore, une marche blanche en hommage à Steve Maya Caniço à Trier, près de Nantes. La canicule et la grêle font mal aux raisins, les vignes en souffrance. On en parle avec notre invité, Bernard Farge, président de l'interprofession des vins de Bordeaux. Des trous dans le panier de la NBA, Coupe du monde de basket en Chine, sans les grandes stars américaines. Et puis aussi la Mostra de Venise avec le dernier Polanski présenté hier. La route, beaucoup de monde sur le chemin du retour aujourd'hui. Et la météo, il va encore faire chaud. Jean-Michel Golinski nous dit tout à la fin du journal.
France Inter.
On se doutait bien que ça risquait de dégénérer. La manifestation des pro-démocraties à Hong Kong avait été interdite. Plusieurs figures du mouvement arrêtées hier. Des milliers de militants ont défilé malgré tout. C'était très calme jusqu'ici, mais c'est la fin de journée à Hong Kong et visiblement la situation. Élise Delève, bonjour.
Bonjour.
La situation donc devient très tendue.
Oui, cela fait une heure maintenant que les manifestants les plus radicaux affrontent les policiers. Ils sont en train d'ériger une barricade avec des barrières de chantier. La situation s'est tendue lorsqu'ils se sont approchés des bâtiments du gouvernement local. On a alors vu des policiers sur les toits des immeubles, tels des snipers qui chargeaient sur les manifestants. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes, ce qui est très rare à Hong Kong. La police les a utilisés pour la première fois la semaine dernière. Les manifestants se sont cachés derrière leur parapluie ou accroupis derrière un terre-plein central en béton. Certains ont tenté d'enfoncer les barrières autour du Parlement. Ces contestataires, les plus radicaux, étaient armés de boucliers. Ils ont jeté des cocktails Molotov sur la police qui a riposté avec un canon à eau, créant un mouvement de foule. On craignait ces débordements car la manifestation, vous l'avez dit, était interdite. Mais les militants pro-démocratie avaient promis de se rassembler et ce matin, des dizaines de milliers de Hongkongais ont bravé la pluie battante. Il n'y avait pas qu'un seul rassemblement mais plusieurs, sans leader. La majorité de ces cortèges ont déambulé dans le calme. Ce week-end était considéré comme un test. Les manifestants demandent plus d'autonomie à la Chine, mais Pékin ne compte pas leur en donner. Hier, plusieurs figures du mouvement pro-démocratie ont été arrêtées et plus de 20 depuis jeudi. Un coup de filet vécu comme un coup de pression par les Hongkongais. Avec ces rassemblements massifs d'aujourd'hui, ils montrent qu'ils ne se laisseront pas faire.
Élise Delève, on suivra bien entendu l'évolution de la situation. Et vous avez le portrait d'un jeune activiste pro-démocratie à lire aussi sur notre site franceinter.fr. Quelque chose de pourri au Royaume-Uni et un autre samedi tendu en perspective. Des dizaines de manifestations sont prévues un peu partout dans le pays pour protester contre la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement dans la toute dernière ligne droite avant le Brexit. Stop the coup, arrêter le coup d'État, les Britanniques en mode révolte, un objectif, forcer le gouvernement à changer de cap. Et le gros des troupes à Londres devant la résidence de Bojo. Marina Daras, vous êtes au 10 Downing Street, on imagine qu'il y a déjà du monde.
Eh bien, effectivement, ça se remplit assez rapidement. Ici, à Downing Street, on attend des centaines de milliers de manifestants. Le rassemblement est national. Hein, il doit avoir lieu dans 32 villes du Royaume-Uni. Mais à Londres, l'attention est à son comble hein, depuis que Boris Johnson a annoncé la suspension du Parlement. Sur les pancartes des manifestants, on parle de démocratie bafouée, de coup d'État et d'un Premier ministre qui ne respecte pas son pays. On entend des slogans qui clament « Shame on you », honte à vous, pour les Britanniques qui, avant le Brexit, n'avaient pas vraiment pour habitude de descendre dans la rue. Cette suspension du Parlement, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Mais aujourd'hui, on ne parle plus tant du Brexit que de sauver la démocratie. Certains mouvements de gauche appellent même à des actions de désobéissance civile. Ils veulent bloquer les ponts et les routes pour faire passer un message fort au gouvernement Johnson.
Marina Daras, en direct de Londres pour France Inter, merci à vous. À l'étranger encore, Dorian, devenu un ouragan majeur de catégorie 4 sur 5 cette nuit, les Bahamas sur sa route, en état d'urgence. L'ouragan est attendu sur place pour demain.
Le journal de 13h. sur France Inter.
Défaite historique aux européennes et départ ou division en cascade, la droite fait sa rentrée politique façon puzzle. Valérie Pécresse a claqué la porte du parti en juin. Elle réunit ses troupes aujourd'hui à Brive. Laurent Wauquiez fait bande à part en Haute-Loire. François Baroin préfère la fête de la pomme du centriste Hervé Morin. Le nordiste Xavier Bertrand fait carrément l'impasse, sans parler des Macron compatibles. Alors que reste-t-il donc du parti Les Républicains? Eh bien, trois candidats pour la présidence, l'archi-favori Christian Jacob, les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé, et visiblement un seul ténor pour l'université d'été du parti en ce moment à la Baule, Gérard Larcher, une voix dans le désert avec Cécilia Arbonnat sur place.
Oui, compenser les absences d'une famille disloquée par de grands sourires gonflés d'optimisme, c'est la prescription du cardiologue Jean Leonetti, président par intérim des Républicains, qui a joué les moteurs à propulsion à peine arrivé. Quelques minutes après, sur l'estrade, l'unique ténor du parti qui s'est déplacé ici reconnaît le mal-être général. Gérard Larcher, président du Sénat.
Déserter quand ça va mal n'est pas dans notre construction. Et il va falloir appeler nos militants à se mobiliser pour cette élection. Nos militants qui ont tenu depuis le printemps 2017. Et je voudrais vous remercier et vous saluer de ne pas vous être barré de la maison à ces moments-là.
Toujours très direct, le président du Sénat s'adresse ensuite aux trois candidats en lice pour la présidence du parti. Ce sera au mois d'octobre. Il y a là Christian Jacob, le favori, Jean Aubert et puis Guillaume Larrivé. Une fois le vote passé, dit Gérard Larcher, il faudra la jouer groupée.
Je le dis avec une certaine solennité. Nous gagnerons que si nous sommes rassemblés autour d'un projet. Sinon, nous disparaîtrons.
La menace de disparaître est bien réelle. Sur les chaises en plastique, des dames en frissonnent de peur. Malgré le soleil radieux sur la Baule, tout le monde redoute de se réveiller un matin avec un gros grain, comme sur l'océan, comme ce qui s'abat en ce moment sur l'Italie.
Cécilia Arbonnat avec Laurent Maquetti à la technique en direct de la Baule. Merci à tous les deux. À Marseille en plage, dans l'Hérault hier soir, minuit moins 5, deux femmes assises à la terrasse d'un restaurant sont aspergées. On a parlé un instant d'acide. Visiblement, ce serait plutôt de l'ordre d'un produit détergent. Pas de brûlure grave pour les deux victimes qui n'ont pas porté plainte. Les enquêteurs penchent pour une histoire de règlement de compte familial. Du blanc dans les rues de Trières ce matin près de Nantes. Plus de 200 personnes ont marché en hommage à Steve Maya Canisso, ce jeune de 24 ans. Mort noyé dans la Loire après une intervention de la police le soir de la fête de la musique. Steve Maya Canisso était animateur scolaire dans cette petite ville. Sur place, Paul Sertilange de France Bleu Loire Océan.
Des amis, des proches, des connaissances ou simplement des habitants de Trières ont marché pendant quelques minutes, tous habillés en blanc. Ensuite, une minute de silence a été respectée. Énormément d'émotions lorsque les membres de sa troupe de théâtre le décrivent rieur, blagueur, talentueux, gentil. Une très grosse perte également pour le milieu associatif. Un monsieur très impliqué m'expliquait que Steve était très présent, toujours volontaire, toujours avec l'envie d'aider les autres. Devant l'école Alexandre Vincent, où il travaillait, des brassards blancs, des ballons, des fleurs ont été accrochés sur le grillage. Ce grillage où les nombreux parents, enfants présents le voyaient tous les jours de la semaine, le sourire toujours sur son visage. Pas de pancarte, pas de revendication. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil, mais la colère et l'incompréhension, bien que contenues, étaient toujours bien présentes tant que ne sera pas faite, disent-ils, justice pour Steve.
Paul Sertilange de France Bleu Loire Océan. L'enquête pour homicide involontaire, quant à elle, se poursuit. Les deux juges nantais ont demandé le dépaysement de l'affaire. La cour de cassation doit trancher mercredi prochain. Suspicion de plomb autour de Notre-Dame à Paris et 5 écoles privées fermées lundi. La rentrée est reportée pour ses élèves. L'Agence régionale de santé recommande de nouvelles analyses. Le rectorat a choisi de ne prendre aucun risque en attendant. La sécheresse s'installe et angoisse les éleveurs. Exemple dans la Creuse. Partout, les prairies sont desséchées. Il faut déjà donner du fourrage aux animaux, autrement dit entamer les réserves d'hiver. Quant aux sources, elles sont au plus bas, voire carrément à sec, ce qui oblige les agriculteurs à charrier tous les jours des citernes d'eau pour abreuver les troupeaux. Un travail qui prend des heures. Olivier Estrand, France Bleu Creuse, a suivi l'un de ces éleveurs à la souterraine.
Nous sommes chez Denis Mathieu et l'herbe est toute jaune dans ces prés.
Là, c'est un paillasson, mais c'est pas la seule, malheureusement. Il y a encore quelques petits endroits un petit peu à l'abri qui sont encore un petit peu verts, mais là, c'est vraiment un paillasson.
L'éleveur se penche sur les 4 grands bacs qui servent d'abreuvoir.
Il reste pas grand-chose, hein, si on le ramène pas aujourd'hui. Nos 4000 litres pour un lot de 23 vaches et avec leur veau. Si on a la chance qu'elles ont un petit peu moins bu, on peut faire 2 troupeaux avec la tonne de 5000, mais c'est souvent pas le cas.
Alors, 3 fois par jour, il faut apporter de l'eau avec la citerne accrochée au tracteur. Les bacs se remplissent, l'eau provient en grande partie de puits, de captage sur la ferme, mais la situation devient compliquée.
Donc celui que, dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, qui est totalement à sec depuis ce matin. Donc encore il y a deux jours, il y avait un petit filet d'eau et ce matin c'est complètement sec.
Sur les autres puits, le niveau baisse de 10 cm par jour. En 35 ans d'exercice, Denis Mathieu n'a jamais vu ça. Cette année, plus que les autres, il faut compléter avec l'eau du robinet, celle du compteur de la ferme.
On n'a pas de tarif préférentiel, on passe 1000 ou 100 mètres cubes, c'est la même chose, on paye comme tout le monde.
Denis Mathieu travaille avec deux associés, les trois hommes possèdent 450 animaux. S'il ne pleut pas très vite, tous leurs puits seront à sec passé la mi-septembre.
Un reportage signé Olivier Estran, France Bleu Creuse. La sécheresse, la canicule et puis aussi le gel au printemps dernier, les orages et la grêle à la mi-août. Bref, rien de très bon, tout ça pour les vignes. Avec nous au téléphone pour en parler, Bernard Farge, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans le 13h de France Inter. Vous êtes président de l'interprofession des vins de Bordeaux. Le ministre de l'Agriculture anticipe une baisse de la production du vin cette année de 12%. Vous confirmez ce chiffre? Ça vous semble crédible?
Alors, c'est une estimation. Hein. Comme toujours, les estimations sont à prendre avec des pincettes. Mais évidemment, nous savons que la récolte sera plus faible qu'une année normale. Il faut encore attendre quelques jours, quelques semaines pour savoir réellement ce que nous aurons dans les chais. Le mois de septembre peut amener des pluies qui seront utiles dans certains vignobles qui n'auront pas encore totalement vendangé. Pourtant, nous savons aujourd'hui que certains vignobles sont déjà très impactés.
Mmh. La canicule a abîmé le raisin. Pourtant, le raisin aime bien la chaleur, Bernard Farge.
Oui, la vigne pousse dans les pays chauds et aime le soleil. Les raisins aiment le soleil et les vins sont meilleurs quand il y a du soleil. Pour autant, les excès de température qu'il y a pu y avoir en juin et juillet ont conduit certaines parcelles à être vraiment sinistrées. On a vu même des brûlures sur les vignes qu'on avait rarement vues, voire jamais vues dans certains endroits. Et surtout, derrière, c'est le manque d'eau. On l'a vu avec le reportage précédent chez nos amis éleveurs. C'est la même chose sur les vignes qui n'ont pas vu d'eau parfois depuis 3-4 mois.
Les vendanges ne vont pas tarder à commencer. Bernard Farge, vous personnellement, dans quel état est votre raisin? Dans quel état sont vos vignes?
Les vendanges ont commencé, notamment dans le sud-est et dans le sud, en Languedoc. Peu, mais maintenant, ça va enclencher, notamment dans la semaine prochaine. Et les premiers blancs à Bordeaux vont se récolter, ou ont commencé à se récolter, ils se récolteront à partir de la semaine prochaine. Et les rouges un peu plus tard. Les signaux sont verts en termes qualitatifs, en termes d'état sanitaire, aujourd'hui. Mais le mois de septembre, comme toujours, comme chaque année, est décisif.
Et vous, votre raisin à vous, comment est-il?
Nous sommes ravi de récolter cette récolte parce que c'est toujours une citation hein, lorsqu'on démarre les vendanges. La température est bonne, les nuits sont froides aujourd'hui, les raisins sont magnifiques. Donc on a plein d'espoir sur ce millésime. Encore une fois, il faut attendre la récolte et la vinification. Et dans quelques mois, on en reparlera avec plaisir si vous voulez.
Donc si je comprends bien, en fait, la situation est assez éparse hein, sur le territoire. Il y a des coins, donc comme chez vous, le raisin se porte pas mal. Des coins du Var aussi hein, qui s'en sortent bien. Et puis d'autres, au contraire, où le raisin est très très abîmé. Comment on explique ça?
Ces variations sont aussi visibles à l'intérieur d'une même région et parfois même à l'intérieur d'une propriété ou entre des communes. Il y a eu des incidents climatiques, vous les avez rappelés en début de ce reportage, hein, qui ne sont pas généralisés, des épisodes de gel, des épisodes de grêle, touchent des petites parcelles parfois ou des petites bouts de communes. Ensuite, lorsque c'est la canicule et la sécheresse, là c'est plus large. Pour autant, on a un bon niveau qualitatif dans toutes les régions cette année attendue.
Donc il n'y a peut-être pas la quantité, mais il y a la qualité. Vous les vignerons, Bernard Farge, est-ce que vous avez moyen du coup de mieux gérer toutes ces vagues de chaleur qui, on le sait, sont appelées à se multiplier?
On se prémunit, d'abord il y a l'expérience, hein. Il y a des méthodes techniques, il faut plus de feuillage, moins de vignes resserrées en termes de feuillage, il faut mettre les raisins à l'ombre, il faut éviter d'utiliser du soufre lorsqu'il fait très chaud, il faut aussi utiliser des cépages à l'avenir qui résistent mieux à la sécheresse et qui ont besoin de moins d'eau. Donc tout ça, ce sont des adaptations techniques que l'on connaît, que l'on met en œuvre le plus souvent, mais parfois il faut que l'on s'adapte avec de nouvelles mesures.
Bernard Farge, on a compris un verdict pour toutes ces vignes françaises, donc courant septembre. On va se quitter là, président de l'interprofession des vins de Bordeaux, merci d'avoir été avec nous en direct sur France
merci.
Inter. Bon après-midi à vous. Dior, j'adore. Cette fois, c'est raté. La dernière campagne publicitaire de Dior avec Johnny Depp n'est pas passée. Une pub YouTube où on voit l'acteur jouer de la guitare dans le désert de l'Utah aux États-Unis, alors qu'un Amérindien danse en tenue traditionnelle, s'affiche alors le nom du parfum, The New Sauvage, soit le nouveau sauvage. Campagne taxée de raciste et de colonial sur les réseaux, à tel point que Dior a dû retirer sa pub. En bref, encore la plus grande braderie d'Europe, plus de 2 millions de visiteurs, 8000 exposants, 80 km d'étal et les traditionnelles montagnes de moules qui vont avec. Bienvenue à Lille pour le week-end. Et le soleil est de la partie pour cette grande braderie toujours aussi festive qu'immense. Allez, on passe au sport. Coupe du monde de basket. Ça commence aujourd'hui, ça se passe en Chine. La France fera son entrée sur parquet demain face à l'Allemagne avec les Américains comme toujours en favoris. Sauf que pour une fois, les grandes stars de la NBA ne sont pas là et les autres équipes Vincent Pellegrini ont peut-être une carte à jouer.
Bien sûr, ce n'était qu'un match de préparation, sans enjeu, mais son résultat a fait grand bruit. À Melbourne, il y a une semaine, l'équipe des États-Unis était battue de 4 points par l'Australie. Cette défaite prouve que cette équipe jeune et inexpérimentée est vulnérable, estime l'ancien entraîneur de l'équipe de France, Claude Bergeau.
Oui, parce que si les prédécesseurs avaient beaucoup plus de talent, beaucoup plus d'alchimie, ils avaient aussi une expérience accumulé du basket, on va dire FIBA, hein, c'est-à-dire le style de jeu européen. Et quand on additionne le talent des joueurs passés plus leur expérience, on avait une équipe qui leur était supérieure. C'est pour cela qu'ils ont écrasé toutes les compétitions.
Pour les vedettes de la NBA, une Coupe du Monde n'est clairement pas un événement majeur, confirme Fabrice Auclair, rédacteur en chef du site Basket USA.
LeBron James n'a jamais fait la Coupe du Monde. C'est pas un événement aux États-Unis la Coupe du Monde. Pour les Américains, après la NBA, le plus important, c'est les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tous ont déclaré forfait, mais ont enlevé la main en disant « l'année prochaine, par contre, je serai là pour les Jeux Olympiques ».
Les Américains ont notamment leur Coupe du Monde demain face à la République tchèque avant d'affronter la Turquie et le Japon. C'est à l'issue de ce premier tour qu'ils passeront des tests plus significatifs.
2-0 à Metz, le PSG sans problème hier soir, mais l'épine Neymar, toujours dans le pied du club parisien, le directeur sportif du PSG, Leonardo, disait encore hier soir qu'il n'y avait pas d'accord avec le Barça pour son transfert. Ça sent la saison à Paris pour la superstar, à 2 jours maintenant de la fin du mercato. Le foot encore et un grand retour ce soir. Premier match depuis le mondial pour l'équipe de France féminine qui joue en amical face à l'Espagne. Coup d'envoi 21h à Clermont-Ferrand. Le stade sera plein à craquer avec un objectif cette année pour les Bleus de Corinne Diacre, se qualifier à l'Euro 2021. De la pelouse au tapis rouge, la Mostra de Venise avec le nouveau Roman Polanski présenté hier soir. Alors au-delà de la polémique sur sa présence dans la compétition, le réalisateur est toujours poursuivi aux États-Unis pour le viol d'une adolescente il y a plus de 40 ans. Place donc au cinéma. Que vaut ce J'accuse ? C'est le titre de Roman Polanski. Eh bien, au cœur de l'histoire, l'affaire Dreyfus, on l'aura compris, mais en filigrane, un message plus personnel qui pourrait bien ne pas plaire à tout le monde, Corinne Pellissier.
Au nom du peuple français, en ce 9 septembre 1899...
Roman Polanski, Dreyfus, des temps modernes, le parallèle revendiqué avec sa propre situation, choquera sans doute une partie du public. Impossible ici de séparer l'homme de son œuvre, car en s'attaquant à la célèbre affaire défendue il y a plus de 100 ans par Émile Zola, le réalisateur nous parle aussi de lui. Une histoire universelle de persécution et d'injustice.
Lâche ! Traître ! Juif.
D'un côté, l'île du diable pour le célèbre capitaine et de l'autre, l'exil pour le réalisateur qui a choisi ici de raconter l'affaire du point de vue du chef des services de renseignement de l'époque, Marie-Georges Picard, incarné à l'écran par Jean Dujardin. Un homme en quête de vérité et de justice, salué mais un peu tard pour le courage de ses convictions. Une grande leçon pour le producteur du film, Alain Goldman.
C'est un héros et c'est grâce à lui que Dreyfus a été innocenté. Autrement dit, la meilleure manière de répondre, c'est de laisser des films de cette importance qui peuvent donner à penser à nos enfants que dans un pays, tout n'est jamais perdu.
L'histoire, filmée comme un thriller, est captivante et à la hauteur des enjeux, portée par des comédiens très justes et remplis de gravité. À la Mostra, Corinne Pellissier, France Inter.
Roman Polanski qui d'ailleurs n'était pas présent dans la salle hier soir pour la projection de son film. Allez, on jette un œil sur le bitume avant de regarder le ciel. Un point route avant les prévisions météo, car c'est le dernier week-end avant la rentrée et c'est bien chargé. Journée classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours. Orange partout ailleurs. Et pas de surprise, Kevin Dufraîche, bonjour, ça coince.
Eh oui, bonjour Hélène, ça coince dans le sens des retours évidemment. D'abord sur l'autoroute A7, la vallée du Rhône dans le sens des retours donc d'Orange à Valence. Vous mettez 1h30 au lieu de 50 minutes en temps normal sur la 9 entre Nîmes et Montpellier. Dans les deux sens, 3/4 au lieu d'un peu plus de 20 minutes. Ou encore sur la 10, la route du retour depuis la côte atlantique, c'est compliqué. À partir de Sainte vers Paris pour aller à Niort, vous mettez 1h10 au lieu de 40 minutes. Le mieux, c'est de rentrer demain. Ce sera tout vert d'après Bison Futé. Vous voyez les bouchons, Hélène, c'est comme la mer, la plage et les maillots de bain. C'est bientôt terminé, ça y est, c'est vraiment la rentrée.
Merci Kevin Dufraîche. En direct du PC, mobilité et patience donc sur la route. Et puis courage, car il risque de faire bien chaud dans la voiture. Météo signé Jean-Michel Golinski.
Un ciel progressivement maussade cet après-midi sur la Bretagne, puis en soirée sur la basse Normandie. Ailleurs, le soleil va l'emporter. Néanmoins, avec la montée des températures, des orages vont éclater sur l'ensemble des massifs. La plupart des températures de l'après-midi vont marquer 30 à 34 degrés, avec par exemple 34 dans le nord-est, sur le centre, en basse vallée du Rhône, 33 sur le Limousin, Rhône-Alpes, sur la Bourgogne et près de la Garonne, 30 à 32 près de la Méditerranée et au nord de la Seine. En revanche, sur la pointe ouest, le maximum sera de 26 à Rennes et Nantes, 22 sur le Cotentin et 20 degrés sur le Finistère. Demain, les températures vont chuter, une baisse de près de 10 degrés en moyenne dans l'espace de 24 heures. Le bleu sera dominant sur un large quart nord-ouest, mais plus au sud et à l'est, l'ambiance plus incertaine sera ponctuée d'averses et même de coups de tonnerre.